En ce dimanche 10 mars, le culte protestant est transmis de l'église de Baule dans le canton de Neuchâtel. L'officiant est le pasteur Edmond Jeanneret, à l'orgue Raymond Opliguer. Un culte protestant qui nous est présenté par le pasteur Philippe Gilliéron.
Oui, ici Baule, d'où vous salue chaleureusement le service des émissions protestantes de radio. Baule, au canton de Neuchâtel, pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est un village ô combien attirant par son authenticité et sympathique aussi par son calme. De peu en retrait du lac qu'il domine, il est situé à peu près à mi-distance entre Boudry et Colombier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous nous retrouvons en cette église, si modeste et simple qu'elle en est à la fois intime et accueillante. Et nous nous proposons donc d'y préparer la semaine sainte, en nous y retrouvant pendant les 4 dimanches qui nous séparent des rameaux et qui marquent le temps de la Passion. C'est un temps mis à part que nos frères catholiques appellent aussi le temps du carême, dont on vous a souligné le sens dimanche dernier, en ce dimanche où nous avons été particulièrement proches de tous nos malades. En vivant aujourd'hui un nouveau dimanche qui doit nous rappeler le chemin de souffrance du Christ, nous aimerions avoir une pensée très fraternelle pour tous ceux qui souffrent de leur solitude pesante et de leur isolement involontaire. Par l'abondant courrier qu'ils nous adressent et auquel, hélas, nous ne pouvons pas toujours répondre, nous savons qu'ils sont légion dans notre pays et bien au-delà. Que ceux qui nous entendent peut-être de très loin ce matin se sentent pourtant très proches de nous et qu'ils sachent surtout que celui qui a connu l'atroce solitude de Gethsémané est aujourd'hui vivant et qu'il intercède bien en leur faveur. Fort de cette certitude que nous pouvons tous partager, prions à notre tour pour que l'amour de Dieu annihile toutes les séparations, tous les isolements et toutes les solitudes aussi.
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté même. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans ton cœur, Jérusalem. Cantique 28, la première et la troisième strophe.
Oh,
Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de peur qu'après avoir mangé et être rassasié, après avoir vu augmenter ton argent et ton or, et tout est bien, ton cœur ne vienne à s'enorgueillir. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de mon bras qui m'ont procuré ces biens. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, et de l'alliance qu'il a conclue avec tes pères. Nous nous humilierons devant le Seigneur, notre Dieu. Dieu fidèle, que nous ne cessons d'oublier, nous te confessons notre ingratitude. Occupés de nous-mêmes plus que de toi, nous n'avons pas sanctifié ton nom. Et plutôt que de chercher premièrement ton règne, nous avons régné nous-mêmes et fait notre volonté. Seigneur, qui vois notre misère, ne nous rejette pas qu'au pied de la croix, nous comprenions combien notre péché t'attriste et t'offense. C'est au nom de celui qui s'en est chargé que nous implorons ton pardon. Amen. Écoutez les paroles de grâce, levons-nous, mes frères. L'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Ainsi soit-il. Nous prierons. Dieu trois fois saint, dont nous ne sommes pas dignes de recevoir la parole, nous te remercions de nous l'adresser aujourd'hui encore par les témoins de ton Fils, les prophètes et les apôtres, et par ton Fils lui-même. Dissipe notre incrédulité. Et puisque par nos propres forces, nous sommes incapables de croire en toi, Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta parole, révélation de ta lumière, expression de ton amour, afin qu'unis à toi et à nos frères, nous vivions dans l'amour et la vérité. Amen. Lecture de l'Écriture sainte. Psaume 88. Nous écouterons ce psaume comme prononcé par Jésus lui-même au jour de sa passion. Seigneur, Dieu de mon salut, vers toi je crie nuit et jour. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes sanglots, car mon âme est rassasiée de maux. Ma vie est au bord du sépulcre. Déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini, exclu parmi les morts, comme les tués qui gisent dans la tombe, eux dont tu n'as plus souvenir et qui sont retranchés de ta main. Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes. Sur moi pèse ta colère et toutes tes houles tu les déverses. Tu as éloigné de moi mes compagnons, tu as fait de moi une horreur pour eux. Je suis enfermé et ne puis sortir. Seigneur, je t'appelle tout le jour, je tends les mains vers toi. Pourquoi repousses-tu mon âme? Pourquoi caches-tu loin de moi ta face? Malheureuse et mourant dès mon enfance, j'ai enduré tes effrois. Je suis à bout. Sur moi ont passé tes colères, tes épouvantes m'ont réduit à rien. Elles me cernent comme l'eau tout le jour, se referment sur moi toutes ensemble. Tu éloignes de moi, amis et proches, ma compagnie, c'est les ténèbres. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5. C'est lui, Jésus, qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa soumission. Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit jusqu'à son propre accomplissement. Il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause d'un salut éternel. Ayant été proclamé par Dieu grand prêtre à la manière de Melchisédek. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le tyrant à part, se mit à le réprimander, disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi, derrière moi, Satan, Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous nous lèverons pour confesser notre foi. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es un homme du même sang que nous et qui a partagé la même douleur, le même effort, le même espoir. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Présence en nous et au milieu de nous, du Dieu qui a fait l'univers et qui le soutient. Je crois que tu as été crucifié par nos fautes, nos craintes, nos lâchetés, et que tu es le compagnon de toutes les victimes de ce monde, de tous les humiliés, de tous les offensés, de tous les torturés. Je crois que tu es aujourd'hui vivant, mystérieusement présent chaque jour dans ton règne et dans notre vie. Par toi, je crois que l'Esprit de Dieu souffle où et quand il veut et crée et renouvelle en nous la foi dans l'espérance du règne qui vient où justice et joie régneront. Christ, je crois en toi. Cantique 181, les trois strophes. Évangile selon Marc, chapitre 14. Ils arrivent à un jardin du nom de Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples : Restez ici pendant que je prierai. Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici éveillés. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, paix, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et il ne savait que lui dire. Pour la troisième fois, il vient et leur dit, « Continuez à dormir, reposez-vous, c'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est avec crainte et tremblement que je me tiens avec vous sur le seuil de ce jardin. Comment parler de ce qui s'est passé là dans la nuit, de cette angoisse sans issue, de cette tristesse à en mourir et de cette sueur de sang au front du Fils de l'homme. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Gethsémané, nous touchons le fond de la souffrance humaine. Tous nos cris, tous nos gémissements, toutes nos supplications demeurées vaines sont devenues au front d'un homme cette sueur qui tombe à terre en caillots de sang. Jésus nous apparaît ici, selon l'expression d'un poète, comme l'éternelle victime que nul n'entend gémir. Et que dire du silence qui seul répond à cette prière vainement répétée? Jamais l'homme n'a été plus seul que dans cette nuit. Naturellement, ceux qui devraient veiller avec lui dorment. Et ce Dieu étrange que Jésus s'obstine à nommer Père, ne dort-il pas aussi? Écoutez ces vers d'Alfred de Vigny. S'il est vrai qu'au jardin sacré des Écritures, le Fils de l'homme est dit ce qu'on voit rapporter. Muet, aveugle et sourd aux cris des créatures, si le ciel nous laissa comme un monde avorté, le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Avouons-le, ce Dieu de Gethsémané, ce Père sourd et muet, est un Dieu indéfendable, impardonnable, un Dieu fou qui semble prendre plaisir à se renier lui-même. Quelle confiance faire à un Dieu qui a eu si peu pitié de son propre Fils? Et qui, de même, au cours des siècles, a eu si peu pitié d'Israël, son fils premier-né, le peuple de son amour et de son élection, toujours menacé, toujours malmené au cours de l'histoire. Un écrivain juif, justement, Martin Buber, s'est demandé dans quelle mesure un juif pouvait encore croire en Dieu après Auschwitz. Il écrit « L'angoisse est devenue trop cruelle, l'obscurité trop profonde. Ce Dieu qui s'est tu, est-il encore possible de l'invoquer ? Aux survivants d'Auschwitz, aux Job des chambres à gaz, oserons-nous dire « Invoquez-le car il est bon, car éternel est son amour ?» Et un autre écrivain juif, Elie Wiesel, écrit de même « Voici la grande question, la plus grave de toutes. Que répondre à celui qui exige une interprétation du silence de Dieu au moment où l'homme juif, et l'homme tout court, avait plus besoin que jamais de sa parole, sinon de sa miséricorde. Faut-il le dire, n'attendez de ma part aucune réponse. Et si quelqu'un de bien intentionné se risquait à dire que l'Évangile est la réponse, je répliquerais que rien n'est plus faux que de faire de Dieu, du Dieu de la Bible, une réponse à nos questions. Trop souvent, comme les faux prophètes ou comme les amis de Job, nous avons fait parler Dieu. Le vrai Dieu ne répond rien à Gethsémané. Sa parole est toute contenue dans son silence et sa miséricorde est cachée dans sa cruauté. Luther écrivait « Dieu cache sa puissance sous une apparence de faiblesse, sa sagesse sous une apparence de folie, sa bonté sous l'apparente sévérité de ses dispensations et sa miséricorde nous semble être de la colère. Il fait le bien en ayant l'air de faire le mal. Il mène à la perfection en ayant l'air de nous détruire. C'est vraiment à ce Dieu-là que nous avons affaire à Gethsémané. Un Dieu qui devient le contraire de lui-même et qui laisse son fils devant le vide, devant une insondable absence, face à face avec le néant. Littéralement, Jésus ne sait plus que devenir. Son angoisse est telle qu'il va de ses disciples à son père et de son père à ses disciples, cherchant un appui, une présence, une réponse. Mais au ciel comme sur la terre, il n'y a plus personne. Jésus est donc libre, libre d'abandonner son père puisque son père l'abandonne. Mais que voyons-nous ? Ce silence de Dieu, Jésus l'interprète comme un ordre. Il faut qu'il boive cette coupe. Et qu'est-ce que cette coupe, dont la seule vue le jette dans une telle angoisse ? La coupe de la colère de Dieu, oui, sans doute, mais que vient faire ici la colère divine ? Si jamais il fut un homme qui ne la mérita point, c'est Jésus. N'est-il pas l'homme dont Dieu a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » N'est-il pas celui que Dieu devrait couronner de grâce et de miséricorde ? Jésus, délaissé de tous, entend une réponse dans le silence de Dieu, et cette réponse est claire. Parce qu'il est le bien-aimé, il doit devenir le mal-aimé, le souffre-douleur. Le silence de son Père signifie « Je ne peux autrement, moi le Tout-Puissant, moi à qui tout est possible, je n'ai pas d'autre possibilité que celle de te laisser souffrir. Ma toute-puissance ne peut pas t'éviter cette coupe. C'est même pour que tu la boives et que tu l'épuises que je t'ai choisi. Et parce que tu es mon bien-aimé, je dois te retirer mon amour. » Ici, vraiment, tout nous dépasse. Jamais nous ne mesurerons le dégoût, la répulsion de Jésus devant cette coupe, car c'est de toutes nos souillures qu'elle est pleine. Personne ne sent sa propre puanteur, déclare un proverbe russe. Mais cette puanteur qui ne nous gêne pas parce que nous sommes dedans devient irrespirable pour le saint et le juste. Pour lui qui participe de toute la sainteté de son Père, respirer cette puanteur, c'est mourir. Mais le pire n'est pas là. Dans l'un de ses romans, Dostoïevski écrit « Le monde aime sa boue et ne veut pas qu'on l'agite. » Et voici qu'à Gethsémané, Dieu présente à son fils toute cette boue. Il la lui présente dans la coupe de son indignation. Cette boue que le monde aime, Dieu la hait. Mais il aime tellement le monde qu'il veut l'en laver, et c'est son fils qui boira cette lie jusqu'à la dernière goutte. Mais le pire n'est pas encore là. Ce qui épouvante Jésus, ce qui constitue son agonie, c'est qu'il ne pourra pas absorber cette fange impunément. Il ne pourra pas la boire sans devenir lui-même boue. Telle est l'horreur de Gethsémané. En vidant cette coupe, Jésus, sans devenir pécheur, va devenir péché. Je le sais, cela est impensable. Cependant, l'apôtre Paul l'affirme, et je le cite, « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pour nous devenir péché, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. » Vous savez qu'une des dernières paroles de Jésus sur la croix a été « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai que nous ne le savons pas. Ou plutôt, ce n'est qu'à partir de Gethsémané et de Golgotha que nous commençons un peu à le discerner. En péchant, nous remplissons goutte à goutte la coupe que Jésus doit boire. Et au lieu d'être ce que nous devrions être, les compagnons et les témoins de son agonie, nous en devenons les auteurs. C'est pourquoi Pascal peut écrire « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde ». Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. dormi, ce serait ajouter à son agonie au lieu de l'en soulager. Mais que deviendra Jésus quand il sera devenu boue, lui, la pureté même, quand il sera devenu noir de toute notre noirceur, lui plus blanc que la neige? Que peut-il devenir, lui, l'élu, sinon le grand rejeté, rejeté dans le plus profond abîme, dans les ténèbres extérieures, au plus loin de la face de Dieu? Car Dieu ne peut plus que l'avoir en horreur, puisque, sans avoir jamais péché lui-même, Jésus s'identifie maintenant à notre péché. Dieu ne peut plus faire autre chose que se détourner de lui, et c'est bien ce qu'il fait et ce qu'il fera. Le cri suprême de Jésus dans l'Évangile selon Marc en est la confirmation, et vous connaissez ce cri: « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ici, de nouveau, nous sommes devant l'impensable. Le Fils unique, qui ne respirait qu'en Dieu, qui, avec Dieu, ne faisait qu'un, séparé de son Père. L'unité absolue de l'amour qui les liait l'un à l'autre, brisée en deux solitudes. Mais à l'instant où Dieu nous apparaît comme un monstre, se niant lui-même en reniant son propre Fils, à l'instant où son prétendu amour se dévoile en réalité comme la pire des duperies, tout se renverse, et ces ténèbres de Gethsémané soudain se transfigurent en la plus pure lumière. Car tout ce qui s'accomplit là s'accomplit en notre faveur. C'est pour se tourner vers nous que Dieu se détourne de son bien-aimé. Cette rupture entre le Père et le Fils véritable, c'est la porte par laquelle Dieu introduit les fils rebelles dans sa communion. Cette brisure, c'est sa nouvelle alliance avec nous. Tout ce qui nous séparait de lui, toute cette honte, toute cette boue, est maintenant bu dans la coupe insondable de Gethsémané. Et si la neige a été changée en boue, c'est afin que nous soyons revêtus de sa blancheur et faits participants de la nature divine. Nous que le Dieu Saint ne pouvait que rejeter, nous devenons ses élus au moment même où son élu est rejeté. Ainsi, dans ce drame, c'est tout l'être de Dieu qui est engagé, car cet homme qui, le visage contre terre, prie près de ses disciples endormis, et qui, dans sa pleine humanité, connaît toute l'amertume, toute l'angoisse de la condition humaine, qui est-il? L'Évangile le proclame: il est le Fils éternel qui était, écrit saint Jean, qui était auprès de son Père avant que le monde fût. Et Jésus lui-même le dira: avant qu'Abraham fût, je suis. Citons encore Pascal, qui, dans sa méditation sur Gethsémané, écrit: c'est un supplice d'une main non humaine, mais toute puissante, et il faut être tout puissant pour le soutenir. en maltraitant son fils. C'est donc lui-même que Dieu maltraite. Toute sa colère, c'est contre lui-même qu'il la tourne. Il devient ainsi de toutes les victimes du mal la plus douloureuse, la plus déchirée. Et qui, des deux, du père et de son fils, souffre le plus? Impossible de le dire, car dans leur séparation même, leurs deux souffrances n'en forment qu'une. Pourquoi, mes frères, pourquoi oublions-nous cette souffrance-là pour ne penser qu'aux nôtres? Car de cette coupe que Christ a bu, nous ne connaîtrons jamais que l'écume. Mais bien que ce n'en soit jamais que l'écume, qui sondera ce que nous-mêmes avons à souffrir? J'ai lu dans un livre récent qu'un homme réchappé d'un camp de concentration y avait si terriblement souffert que sa seule prière ne pouvait plus être que celle-ci: Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fais que je puisse te pardonner. Nombreux sont ceux qui ne lui pardonnent pas, et rien n'est plus naturel que ce ressentiment. Tant que Dieu demeurera pour nous le seul à ne pas souffrir, comment pourrions-nous lui pardonner? Mais je le répète, de toutes les victimes du mal, la plus douloureuse, la plus atteinte, la plus brisée, c'est lui. Et nous savons que cette souffrance n'est pas vide ni vaine. Elle est la plénitude, elle est la forme de son amour. Désormais, quoi que je puisse souffrir, je sais que, loin de me séparer de Dieu, ma souffrance m'introduit dans ce jardin où Jésus lui-même me demande de veiller avec lui, de ne pas le laisser souffrir seul dans la nuit de ce monde. Et il ne faut pas cacher, mes frères, que cette lutte contre le sommeil est âpre et sans répit, car le sommeil, c'est tout ce qui nous menace à chaque instant: l'apathie, l'indifférence, la tiédeur, la résignation, la médiocrité. Laissez-moi, en terminant, vous lire deux strophes d'un poème écrit par un prisonnier, le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, qui fut pendu au printemps de 1945 dans un camp nazi. Les hommes vont à Dieu dans leur misère, demandant secours, bonheur et pain, et d'être sauvés de la maladie et de la faute et de la mort. Tous font cela, tous. Chrétiens et païens, des hommes vont à Dieu dans sa misère, le trouvent pauvre et méprisé, sans gîte et sans pain, le voient abîmé sous la faute, la faiblesse et la mort. Avec Dieu sont les chrétiens dans sa passion. Unissons-nous dans l'intercession. Dieu de Gethsémané, dont le Fils est descendu dans l'abîme et a veillé et a prié dans nos ténèbres, compagnon de tous ceux qui connaissent l'angoisse, la solitude, l'abandon, tiens-toi près d'eux, veille avec eux, que dans le silence ils entendent ta parole et ta prière, qu'ils discernent ta présence dans leur nuit, qu'ils te reconnaissent solidaire de leur détresse. Ôte à leur souffrance son amertume, et que loin de les séparer de toi, elles puissent devenir une participation à la tienne. Eux que la douleur tient éveillés, révèle-leur qu'ils peuvent veiller avec toi qui seras en agonie jusqu'à la fin du monde, et qui nous demande de ne pas te laisser seul. Par l'action de ton esprit en nous, tire-nous de notre sommeil et fais de nous des veilleurs et des intercesseurs fidèles. Amen. Cantique 243, les trois premières strophes. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne, apprends-nous toi-même à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Oh,
Seigneur miséricordieux et tout-puissant, nous bénisse et nous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
C'est à Bôle, près de Neuchâtel, que nous venons de vivre ensemble ce culte, le premier d'une série qui va nous mener à la veille des rameaux. Raymond Hoplicaire a conduit les chants de l'Assemblée et notre recueillement. Edmond Jeanneret, pasteur de la paroisse, a présidé ce service et dirigé notre méditation. Nous les retrouverons donc avec les paroissiens de Bôle ces trois prochains dimanches. Les quatre prédications du pasteur Jeanneret formeront un tout, et les textes qui nous seront demandés seront ainsi groupés en un seul envoi qui vous parviendra pour la semaine sainte. Pour être servi à temps, n'attendez pas la dernière pour nous écrire à notre adresse habituelle, émission protestante, maison de la radio, 1211 Genève 8. Notre rendez-vous de ce soir pour l'Église aujourd'hui à 18h05 sera écuménique. C'est Jacques Richaud qui présentera la première émission d'une série de réflexions pour ce temps de carême. Nous vous rappelons aussi nos émissions hebdomadaires sur le second programme, mercredi à 20h45, Vivre ensemble sur la planète, partager pourquoi et comment. Vendredi à 20h30 pour La foi et la vie, Daniel Grivel présentera la troisième émission d'une série intitulée La Bible en question. Fort de ce qui nous a été enseigné aujourd'hui, nous allons pouvoir nous séparer, enrichis. Car nous savons que, quoi que nous puissions souffrir, loin de nous séparer de Dieu, notre souffrance nous introduit dans ce jardin où Jésus lui-même nous demande de veiller avec lui, de ne pas le laisser souffrir seul dans la nuit de ce monde. En nous réjouissant de vous retrouver tous à l'écoute dimanche prochain, nous prenons congé de vous. Non sans remercier Jean Duval d'avoir installé ici à Bôle l'antenne qu'il va maintenant rendre au studio. Au revoir et à bientôt.
Merci au pasteur Philippe Gilliron pour la conclusion apportée à ce culte protestant de ce dimanche 10 mars. Il est 11h, des informations, Bernard Peterson.